Chapitre 12. Foi et évangélisation dans la vie ordinaire. Saint José Maria. Un conseil dans un moment de doute. Le 7 octobre 2008 avait lieu, dans la salle de l'Athénée municipal de Bordeaux, une présentation de l'Opus Dei. Public nombreux, atmosphère cordiale. Quelques membres de l'œuvre fondée par Saint José Maria expliquaient comment, dans l'œuvre, l'on apprend à chercher la sainteté dans la vie courante de chaque jour, dans le travail, dans l'accomplissement des devoirs familiaux, en vivant avec vision surnaturelle les petits événements, joies et peines qui émaillent la vie. Une jeune mère de famille, 6 enfants, ingénieur Airbus, racontait comment elle s'y prenait pour concilier obligations familiales et travail, et comment elle s'efforçait d'aider ses amis et collègues à chercher la rencontre avec Dieu dans la vie de chaque jour. La salle écoutait avec attention, agréablement surprise par ce témoignage. Cependant, à un moment, quelqu'un se leva en déclarant que c'était faire preuve de peu de sens social de se cantonner à la vie ordinaire, et qu'il aurait été plus intéressant de partir en Afrique ou en Inde pour réaliser un travail ayant vraiment une vraie utilité pour la société. La jeune dame ne se démonta pas. Elle reprit la parole et raconta que, justement, lorsqu'elle était étudiante, elle était partie en Inde avec un groupe de jeunes garçons et filles d'une petite association humanitaire. Leur mission consistait à réhabiliter une vieille école à Calcutta. C'était en août 1997. Il faisait une chaleur moite étouffante, il peinait à s'approvisionner en pinceaux et en peinture, à se faire comprendre par la population locale. Malgré leur bonne volonté, ils avaient l'impression de ne pas être efficaces. Et puis surtout, la misère qu'ils rencontraient était si grande que leur contribution leur semblait une goutte d'eau dans un océan. Bref, ils étaient découragés. « Je commençais à perdre mes repères habituels, » disait-elle. « J'avais l'impression que la présence de notre Dieu Sauveur s'effaçait, et je sentais celle d'autres dieux terrifiants, dont je voyais des représentations partout dans Calcutta. J'ai pensé aller voir Mère Teresa, dont j'avais entendu parler, pour retrouver auprès d'elle mes certitudes et la foi en notre Seigneur. Sa renommée était si grande qu'elle put facilement la trouver. » À une messe qui était célébrée à 5 heures du matin dans un foyer des missionnaires de la charité. Dans la chapelle, tout respirait la paix, l'ordre, la sérénité. La liturgie était très belle. Tout au fond de la salle, continue le récit, je voyais une petite femme âgée en sari bleu et blanc, enfoncée dans son fauteuil roulant, les mains jointes, profondément recueillie et silencieuse toute la durée de la messe. C'était Mère Teresa. Après l'action de grâce, elle a semblé se réveiller tout d'un coup, s'est redressée, et j'ai demandé à une sœur si je pouvais lui parler. Je me suis approchée d'elle et je lui ai fait part maladroitement de mes doutes et de mes inquiétudes. Alors elle me dit simplement ceci. « Ma fille, rentrez chez vous et cherchez à faire le bien autour de vous. » Je l'ai remerciée, à vrai dire, un peu déconcertée. Je suis sortie de la quiétude du foyer et je suis rentrée à pied dans le concert des klaxons. J'ai été apaisée par la messe et par la paix de ces quelques instants. Dieu n'était donc pas complètement absent de ce pays. Mais j'avoue qu'en ce moment, je n'ai pas très bien compris ce que Mère Teresa entendait par là. J'étais même un peu déçue. Faire du bien chez moi, dans ma vie banale de tous les jours? Cela me semblait sans envergure et sans rapport avec mes préoccupations sociales et mes aspirations. Cependant, j'ai gardé dans mon cœur ces paroles. Et puis un jour, 2 semaines à peine après ma visite, alors que j'étais déjà en France, elles sont revenues très fortes à mon esprit lorsque j'ai appris que Mère Teresa était décédée. Il me semblait que ces paroles étaient comme son testament spirituel pour moi et peut-être pour d'autres aussi. Et qu'elle m'indiquait un chemin que je ne connaissais pas encore, mais qui allait donner un sens à ma vie. Je commençais à comprendre un peu que ce que Mère Teresa voulait dire, que pour lutter contre la misère du monde, il faut d'abord vivre simplement, correctement son devoir d'État. Contrairement aux apparences, cela est très profond. C'est ce que disait aussi sainte Thérèse de Lisieux, qui sauvait le monde depuis sa petite cellule. C'est plusieurs années après, lorsque j'ai connu l'Opus Dei, que j'ai compris la vérité de ces propos pleins de bon sens, et que j'ai trouvé la manière concrète de réaliser cet idéal, en bénéficiant de la formation et du suivi spirituel nécessaires que l'œuvre m'offrait. J'étais partie me chercher loin en Inde, mais c'est chez moi que je me suis trouvée, près de mes proches, dans le quotidien avec Dieu. Témoignage de Madame Manuela Tressac. Ce récit confirme d'ailleurs ce que l'on sait de Mère Teresa. Parfois, quelqu'un lui disait, avec admiration, qu'il ne pourrait jamais faire ce qu'elle faisait. Alors elle répondait, « Ce que je fais, vous ne pouvez pas le faire peut-être, mais ce que vous faites, vous, moi, je ne peux pas le faire. » Elle comprenait bien que chacun a sa place dans le plan de Dieu et que ce qui est important est, comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que chacun réalise bien la tâche que le Seigneur lui confie. Dans le silence d'une retraite. Quelques années avant que Mère Teresa commence son travail dans les bidonvilles de Calcutta, un jeune prêtre du diocèse de Madrid, José María Escrivá, recevait clairement dans son cœur un appel qui se grava pour toujours en lui. Il avait 26 ans et, lui aussi, il exerçait une grande partie de son travail sacerdotal dans les bidonvilles et dans les quartiers pauvres de la capitale espagnole. C'était le 2 octobre 1928, durant une retraite qu'il faisait dans la maison centrale des missionnaires de Saint-Vincent de Paul. Alors que, entre deux méditations, il était dans sa chambre en train de relire ses notes, il vit avec la clarté de la lumière divine la mission que le Seigneur lui confiait. Il s'agissait d'ouvrir un chemin de sanctification dans le monde, dans lequel tous peuvent s'engager. Non pas un chemin réservé à une élite, à des âmes privilégiées qui réalisent des tâches extraordinaires ou qui consacrent leur vie à Dieu en se retirant du monde, mais un chemin pour les chrétiens courants, une voie que l'on parcourt sans quitter sa vie habituelle, en vivant son don à Dieu dans l'exercice du travail professionnel et dans l'accomplissement des devoirs quotidiens. Dans une homélie qui synthétise très bien l'esprit de l'Opus Dei, prononcée en 1967 sur le campus de l'Université de Navarre, Saint José María s'exclamait « Dieu vous appelle à le servir dans et à partir des tâches civiles, matérielles, séculières de la vie humaine. C'est dans un laboratoire, dans la salle d'opération d'un hôpital, à la caserne, dans une chaire d'université, à l'usine, à l'atelier, au champ, dans le foyer familial et au sein de l'immense panorama du travail. C'est là que Dieu nous attend chaque jour. Sachez-le bien, il y a quelque chose de saint, de divin, qui se cache dans les situations les plus ordinaires, et c'est à chacun d'entre vous qu'il appartient de le découvrir. Il n'y a pas d'autre chemin, mes enfants. Ou nous savons trouver le Seigneur dans notre vie ordinaire, ou nous ne le trouverons jamais. » C'est ainsi que dans le silence d'une retraite, dans le dialogue personnel d'une âme avec Dieu, l'Esprit-Saint ouvrit des voies nouvelles pour que la grâce de la rédemption se répande abondante sur l'humanité. Ce que Dieu lui demandait, c'était d'ouvrir un chemin nouveau dans l'Église. Aujourd'hui, après l'enseignement du Concile Vatican II, le message que Dieu lui confiait pourrait nous sembler familier, naturel. Mais à l'époque, il n'en était pas ainsi. Ce chemin, il fallait le tracer, le défricher. Car, en fait, au cours de l'histoire, l'appel à la sainteté dans la vie ordinaire, qui est aussi ancien que l'Évangile, s'était estompé. On ne niait pas, certes, que l'on puisse se sanctifier en étant dans le monde, mais l'on avait fini par penser que les activités ordinaires, le travail, les relations sociales, les mille soucis de la vie, étaient un handicap à surmonter si on voulait vivre une vie contemplative, une vie d'union à Dieu. Dans le message reçu par Don José María, en revanche, les occupations de la vie courante, loin d'être un handicap, sont la matière elle-même qu'il faut modeler pour que s'effectue l'union de l'âme avec Dieu. Quelques jours avant d'être élu pape, le cardinal Albino Luciani, le futur Jean-Paul Ier, décrivait très bien, dans un article paru dans la Gazzettino di Venezia, la nouveauté du message répandu par Don José Maria. Ce sont des choses semblables qu'avait enseigné saint François de Sales, presque 300 ans auparavant. En chaire, un prédicateur avait alors publiquement voué aux flammes le livre dans lequel le saint expliquait que, sous certaines conditions, le bal peut être licite, et où il allait même jusqu'à consacrer un chapitre entier à l'honnêteté du lit matrimonial. Escriva de Balaguer va cependant à bien des égards plus loin que François de Sales. Ce dernier prêche aussi la sainteté pour tous, mais il semble n'enseigner qu'une spiritualité des laïcs, alors qu'Escriva veut une spiritualité laïque. François en effet suggère presque toujours aux laïcs les mêmes moyens que ceux qu'emploient les religieux, avec les ajustements opportuns. Escriva, lui, est plus radical. Il parle carrément de matérialiser, dans le bon sens, la sanctification. Pour lui, c'est le travail matériel lui-même qui doit se transformer en prière et en sainteté. Les débuts. Dans les années 30, la nouveauté du projet était telle que certains considérèrent ce jeune prêtre comme un rêveur, comme un fou. Mais, dès les premiers jours, Don José Maria se mit au travail. Il réunissait autour de lui quelques jeunes, des étudiants surtout, mais aussi des ouvriers, des employés, quelques prêtres aussi, pour les former à cet idéal. Il utilisait pour cela divers locaux. Une pièce qu'on lui réservait dans un centre d'accueil pour des cas sociaux tenus par des religieuses, un bar chocolaterie appelé El Sotanillo, aujourd'hui disparu, ou encore la maison de sa mère. Pour les former à la générosité et les ouvrir à l'amour de Dieu, il se rendait dans divers hôpitaux, en général le dimanche après-midi, accompagné d'un bon groupe de jeunes. À l'époque, les hôpitaux étaient surchargés. Les malades s'entassaient parfois jusque dans les couloirs. Des milliers de personnes mouraient chaque année de la typhoïde, de la pneumonie aiguë, de la variole, et surtout de la tuberculose, à l'époque incurable. La situation était tellement difficile et insalubre, les tâches dont ils s'occupaient tellement désagréables, que souvent les jeunes, en sortant, en avaient le haut le cœur. Mais ces visites les formaient à l'esprit de sacrifice, au don de soi, et surtout leur apprenaient à voir le Christ dans ceux qui souffrent. Don José Maria savait que toute la force et toute l'efficacité du travail apostolique proviennent de la prière et de l'union à la croix du Christ. Un jour, en 1974, quelqu'un lui demanda pourquoi il disait que les malades sont le trésor de l'Opus Dei. Alors, lentement, comme en savourant ses souvenirs, il parla d'un prêtre qui avait 26 ans, la grâce de Dieu, la bonne humeur et rien de plus. Il n'avait ni vertu ni argent, et il devait fonder l'Opus Dei. Et vous savez comment j'ai pu ? Grâce aux hôpitaux. L'hôpital général de Madrid, rempli de malades extrêmement pauvres, certains d'entre eux étaient allongés dans le couloir, parce qu'il n'y avait pas assez de lits. L'hôpital du roi, où il n'y avait que des tuberculeux, et la tuberculose, alors, ne se guérissait pas. Voilà ce que furent les armes pour vaincre. Voilà le trésor à payer. Voilà ce qui fut la force pour aller de l'avant. Et le Seigneur nous a conduits dans le monde entier, et nous sommes en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique et Océanie, grâce aux malades qui sont un trésor. Guerre civile et persécutions religieuses. Petit à petit, le travail de Don José Maria se développait. C'était encore une petite semence, semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Mais il savait qu'elle pousserait et deviendrait un grand arbre, et que les oiseaux du ciel viendraient s'abriter dans ses branches. Quelques étudiants, quelques jeunes filles s'attachent à lui et partagent son idéal. Ils choisissent de donner leur vie à Dieu pour réaliser l'Opus Dei, tout en continuant à mener leur vie habituelle. En 1936, les projets prennent de l'ampleur. José Maria envisage d'ouvrir un centre de formation à Valence et un autre à Paris. Les personnes qui doivent se rendre dans ces villes sont déjà désignées. Quant au mois de juillet, éclate la guerre civile. La persécution religieuse s'abat sur Madrid et sur la zone républicaine. Des milliers de prêtres, de religieux et religieuses, des dizaines d'évêques sont assassinés, les églises profanées, les couvents brûlés. Avoir un chapelet sur soi, une image de la Sainte Vierge dans sa maison, cacher un prêtre, est un crime pour lequel on peut être fusillé sur le champ. L'expansion de l'Opus Dei subit un coup d'arrêt, dont José María doit se cacher. D'abord pour plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique, où un médecin de sa connaissance l'accueille, le faisant passer pour fou. Puis dans un appartement, ayant une vague couverture diplomatique, la légation du Honduras, où il trouve refuge avec un petit nombre des membres de l'œuvre, en même temps que plusieurs dizaines d'autres personnes. Cependant, le père, ainsi que l'appelaient déjà ses enfants dans l'œuvre, est impatient de retrouver son activité sacerdotale. Aussi, au mois d'août 1937, il quitte la légation pour exercer son ministère un peu partout dans Madrid, dans la rue, chez un ami, toujours obligé de se cacher, de chercher un abri, constamment sous la menace d'être découvert et immédiatement fusillé. Il confesse, il apporte la communion, il baptise aussi. Finalement, on l'encourage à passer dans la zone nationale pour coordonner le suivi spirituel des membres de l'œuvre, que la guerre avait dispersé un peu partout. Le 1er décembre 1937, après une marche à pied exténuante à travers les Pyrénées, accompagné d'un petit groupe de ses enfants, il parvint à Andorre, d'où il put rejoindre Burgos. De là, il put prendre contact avec plusieurs membres de l'Opus Dei et relancer le travail apostolique. Malgré les difficultés, sa foi ne l'abandonnait pas. Il avait toujours cette assurance surnaturelle que l'œuvre que Dieu lui avait confiée se réaliserait. Il ressentait dans son cœur la force de ces paroles du psaume qu'un jour il avait entendu très clairement dans sa prière « Les eaux franchiront les montagnes ». Psaume 103. La croix des incompréhensions. En 1939, avec la fin de la guerre civile, dont José María put reprendre son activité et s'occuper de la formation spirituelle de ses enfants ainsi que de l'expansion de l'Opus Dei. L'œuvre comptait alors une douzaine de membres dispersés par la guerre sur le territoire espagnol. Il fallait à nouveau planter la semence, compter sur la grâce de Dieu, sur la fidélité et la générosité de ses premières vocations. Durant ces premières années, pendant lesquelles l'Opus Dei est encore comme une petite plante qui commence à porter son fruit, des oppositions surviennent, dures et nombreuses. Aux difficultés matérielles s'ajoutent maintenant, comme preuve de prédilection divine, les incompréhensions, les critiques, les calomnies. Pour beaucoup, l'œuvre de Don José María était simplement de la folie. D'autres s'attachaient aux schémas habituels de ce que l'on appelle la vocation. Si un jeune homme manifeste le désir d'un plus grand engagement dans la vie chrétienne, il n'avait d'autre chemin que la prêtrise ou le noviciat. De ce fait, l'œuvre de Don José María apparaissait comme une dangereuse machination pour soustraire des vocations au séminaire ou au couvent. On en déduisait que son enseignement était hérétique et qu'il fallait le faire condamner par l'Église. À partir de 1940, c'est une véritable campagne qui s'organise. Il arriva que l'on condamne publiquement dans l'Église, en chair, ceux qui fréquentaient les activités de formation organisées par Don José María, en les expulsant des associations catholiques dont ils faisaient partie. À Barcelone, on fit un auto-da-fé avec Chemin, le petit livre qu'il avait écrit, où il recueillait des pensées pour faciliter la prière et la réflexion de ses enfants spirituels. La Falange, la branche politique de l'appareil d'État franquiste, n'était pas en reste, voyant dans ce groupe de jeunes qui suivaient Saint José María un parti secret qui pourrait lui faire concurrence. On les accusa, entre autres, d'organiser des réunions clandestines, de cacher des armes dans un puits, etc. Un petit épisode rend bien le climat de cette période. Un jour, un prêtre, ami du fondateur, se trouva de passage à Barcelone, où vivait une demi-douzaine d'étudiants de l'Opus Dei. Le lendemain, il devait célébrer la messe dans un collège tenu par des religieuses, et il se fit accompagner par quelques-uns de ces jeunes. Après la messe, la supérieure et une autre religieuse, très édifiées par la piété de ces jeunes étudiants, les invitèrent à prendre le petit déjeuner. Quand ils furent à table, le prêtre dit « Voici les hérétiques pour la conversion desquels vous m'avez demandé de dire la messe. » Les braves religieuses faillirent s'évanouir. On leur avait parlé de dangereux hérétiques qui allaient perdre leur âme, et elles avaient sous les yeux des étudiants courants et ordinaires qui assistaient à la messe avec dévotion et qui communiaient. José Maria supportait avec joie et sens surnaturel ces épreuves. Il demandait à ses enfants non seulement de pardonner, mais aussi de ne pas évoquer ces faits entre eux, afin de ne jamais provoquer la moindre faute contre la charité. Il leur demandait de dire la vérité, de pardonner, puis d'oublier et de continuer à travailler. Comment expliquer cet acharnement et cette persécution? Il y avait d'abord des personnes qui ne comprenaient pas le phénomène pastoral de l'Opus Dei. Ils croyaient rendre un service à Dieu en s'opposant à son enseignement. Le Concile Vatican II, qui, quelques 20 ans plus tard, reprendra l'enseignement de Don José Maria, était encore loin. Il y avait ensuite, comme malheureusement cela arrive aussi, des motifs moins nobles, des jalousies, la prétention chez certains d'être les dépositaires exclusifs de la mission apostolique parmi les jeunes. Enfin, il y avait ceux que saint Paul appelle les ennemis de la croix du Christ, trop heureux de trouver une occasion pour s'opposer à l'Église. Et puis, comme cela arrive à toute époque, les gens qui répètent avec légèreté et sans esprit critique ce que d'autres disent. Il y a aussi une raison plus théologique, pourrait-on dire, qui permet de comprendre cela. L'Église est si unie au Christ qu'elle en reproduit le mystère tout au long de son histoire. L'incarnation par sa présence au monde, la résurrection par les fruits de sainteté qu'elle apporte, malgré les erreurs et même les péchés de ses membres, et par les innombrables œuvres de bienfaisance, de miséricorde qu'elle réalise. Et le mystère de la passion aussi, par l'opposition qu'elle rencontre dans son itinéraire terrestre. Aussi, il ne faut pas espérer qu'un jour, il pourrait y avoir une époque de lumière, où enfin tous les malentendus seront dissipés. La croix est essentielle à la mission de l'Église, comme elle l'a été au Christ, pour nous manifester jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous. Tous ceux qui ont ouvert des nouveaux chemins dans l'Église ont connu la persécution. Le Christ lui-même en premier lieu, puis les premiers chrétiens. Et cela a accompagné toujours l'Église dans son histoire. Que n'a-t-on pas dit de sainte Thérèse d'Avila, de saint José de Calasanz ou de saint Jean Bosco, pour ne citer que quelques exemples, et même de mère Thérésa. Oui, même de mère Thérésa. Si vous ne rencontrez pas la croix, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction, parce que vous n'avez pas rencontré le Christ, disait saint José Maria à l'une de ses filles, qui, dans les années 60, partait dans un pays pour y commencer le travail de l'Opus Dei, sans autre aide que sa bénédiction. Et il disait toujours que les contrariétés sont un signe de prédilection divine et une marque de l'authenticité du charisme reçu de Dieu. La réalité dépassera vos rêves. Malgré toutes ces difficultés, Don José Maria continuait son travail. Il savait, on pourrait dire qu'il le voyait, que Dieu mènerait à bien son œuvre, malgré ses propres faiblesses et limitations, malgré l'absence de moyens, malgré les incompréhensions et les persécutions. « Le ciel est engagé à ce que l'œuvre se réalise », disait-il à ses enfants. C'est pourquoi il pouvait ajouter « Rêvez et la réalité dépassera vos rêves ». De fait, avec une fécondité extraordinaire, le message que le Seigneur avait confié à ce jeune prêtre de Madrid en 1928 et qui avait rencontré tant d'opposition et d'incompréhension se répandit rapidement partout dans le monde. Quand il mourut en 1975, on comptait par dizaines de milliers les hommes et les femmes de tous âges et de professions, intellectuels ou simples ouvriers, employés, paysans, femmes au foyer ou impliqués dans une activité professionnelle, célibataires et mariés, qui avaient donné leur vie à Dieu sans quitter leur place dans la société, s'efforçant de porter l'esprit chrétien dans les milieux où ils vivent. Durant sa vie, Saint José Maria amena en outre au sacerdoce 1000 prêtres, des jeunes ayant un diplôme universitaire qui abandonnaient leur travail pour se consacrer aux besoins spirituels de l'œuvre et de l'Église. Quelques années avant sa mort, le Concile Vatican II ratifiera le message de Saint José Maria en enseignant l'appel universel à la sainteté, dans des textes célèbres qui reprennent presque mot pour mot son enseignement des années 30. Saint José Maria, lui, s'efforça toujours de passer inaperçu. « Ce que je souhaite est de me cacher et disparaître pour que seul Jésus resplendisse », disait-il. Cependant, on reconnaît de plus en plus son rôle historique dans la vie de l'Église. Un illustre prélat, le cardinal Baggio, s'exprimait ainsi à son sujet. « Nous n'avons pas la perspective nécessaire pour apprécier la portée historique de l'enseignement sous tant d'aspects authentiquement révolutionnaires et précurseurs, et de l'action pastorale, d'une efficacité et d'un rayonnement sans équivalent de cet insigne homme de l'Église. Mais il est dès maintenant évident que la vie, l'œuvre, le message du fondateur de l'Opus Dei constituent un virage, ou plus exactement, un chapitre nouveau et original dans l'histoire et la spiritualité chrétienne, si nous les considérons comme ils doivent l'être, un chemin rectiligne guidé par le Saint-Esprit. La sanctification du travail. Un jour, en avril 1970, Saint José Maria passait près du village d'Aragon, où la tradition, corroborée par des actes notariés de l'époque, témoigne d'un miracle par lequel un homme avait récupéré une jambe perdue dans un accident. En commentant ce fait, il expliquait à ceux qui l'accompagnaient qu'il croyait bien sûr au miracle, mais que c'était surtout les miracles d'ordre spirituel qui l'intéressaient, les conversions, la confession. Et il ajoutait « Les miracles matériels, nous devons les réaliser nous-mêmes par le travail bien fait. Si nous travaillons bien, en sanctifiant nos occupations, si nous apprenons aux hommes à chercher Dieu dans leur travail, un travail bien réalisé avec soin et perfection, en équipe, avec les autres hommes, que de miracles matériels nous opérerons dans le monde ? Nous contribuerons à ce qu'il y ait moins de faim, moins d'ignorance, moins de pauvreté, moins de maladies. Aujourd'hui, les bons médecins, avec l'aide de leur science, savent recoller des membres qui récupèrent le mouvement et la sensibilité. Un peu partout dans le monde, du Pérou au Congo, en Colombie, au Japon, aux Philippines, dans les quartiers défavorisés de Madrid ou de New York, dans le Bronx, dans les endroits les plus reculés de la cordillère des Andes, ont surgi des œuvres de formation humaine et spirituelle, des initiatives d'éducation et de promotion sociale, des écoles familiales agraires, des centres de développement pour la femme, des universités et des foyers étudiants, des dispensaires et des cliniques. Elles ont surgi naturellement, comme fruit de l'amour et de l'esprit de sacrifice, de ceux qui ont mis le Seigneur au centre de leurs occupations courantes. Cependant, l'apostolat le plus important est celui que chacun réalise là où il se trouve, dans le contact quotidien avec des amis et collègues. Un épisode authentique que Saint José Maria racontait parfois peut aider à s'en faire une idée. C'est l'histoire d'un camionneur, membre de l'Opus Dei, qui un matin, de bonne heure, traverse un petit village encore silencieux. Au bord de la route, un homme avec une modeste valise fait de l'autostop. Le camionneur s'arrête et l'homme lui demande « Êtes-vous seul ? Y a-t-il une place pour moi ?»« Bon, eh bien, à vrai dire, non, je ne suis pas seul, » répond le camionneur après avoir hésité un peu. « Mais montez, montez !» L'homme à la valise monte. Il regarde et ne voit personne d'autre. Et pendant que le camion redémarre, il demande « Pourquoi m'avez-vous dit que vous n'êtes pas seul ?» « Vous voyez, répond le camionneur, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais je ne suis jamais seul. Le Christ est à mon côté et il me tient compagnie. Je lui parle, je lui raconte ce qui se passe dans ma tête, Je commente avec lui l'état de la circulation. L'homme à la valise reste pensif, puis brusquement. « Arrêtez, dit-il, arrêtez, je voudrais descendre. »« Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» demande le camionneur. « Je rentre au village, je suis le curé et j'étais en train de tout abandonner. » Dans cette sympathique anecdote, tout le message de Saint José Maria se reflète comme dans un miroir. Un message qui a laissé un sillon large et lumineux dans l'histoire déjà riche et féconde de l'Église. En guise de conclusion, le monde a besoin de la lumière du Christ pour retrouver ses repères et ses valeurs. C'est là, le monde, la vigne, c'est là le terrain sur lequel les fidèles laïcs sont appelés à vivre leur mission. Jésus veut pour eux, comme pour tous ses disciples, qu'ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. En prenant comme exemple la première communauté chrétienne de Jérusalem, le pape François expliquait que tous les fidèles sont appelés à annoncer le Christ, qu'il suffit d'avoir reçu le baptême pour évangéliser, y compris au milieu des persécutions, même lorsque l'on vit dans des conditions d'insécurité. Ils ont quitté leur maison, ils ont emporté avec eux peut-être peu de choses, mais ils avaient avec eux la richesse de la foi, cette richesse que le Seigneur leur avait donnée. Ils étaient de simples fidèles, à peine baptisés depuis un an, ou peut-être un peu plus, mais ils avaient le courage d'annoncer l'Évangile. Le baptême leur donnait ce courage, la force de l'esprit. Cette tâche revient à chaque chrétien, selon les charismes et les dons que Dieu lui a octroyés. À chacun, le Seigneur trace un chemin, souvent bien différent en apparence. Nous en avons vu des exemples le long de ces pages. Mais au fond, essentiellement le même, car ce qui compte est de citer ces vers tirés de l'offrande lyrique de Tagore. Dans cette œuvre, qui est une succession de dialogues et de louanges à Dieu d'une grande beauté et d'une grande humilité, l'auteur, prix Nobel de littérature en 1913, nous livre une méditation qui pourrait constituer au fond le message que les saints de toutes les époques nous adressent. J'étais allé mendiant de porte en porte sur le chemin du village lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide, et j'admirais quel était ce roi de tous les rois. Mes espoirs s'exaltèrent et je pensais « C'en est fini des mauvais jours, et déjà je me tenais prêt, dans l'attente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. » Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors, tu tendis ta main droite et dis « Qu'as-tu à me donner ?» Ah, quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier. J'étais confus et demeurais perplexe. Enfin, de ma besace, je tirais lentement un tout petit grain de blé et te le donnais. Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvais un tout petit grain d'or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurais amèrement alors et pensais « Que n'ai-je eu le cœur de te donner mon tout ?» Tout donner, il n'y a pas d'éloge plus touchant dans l'Évangile que celui que le Seigneur fit de la pauvre veuve qui avait versé dans le trésor du temple 2 piécettes. Dans son humilité, elle ne s'était sans doute pas doutée que son geste serait transmis en exemple à toutes les générations, parce que, de son indigence, elle avait mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà le message que les saints nous adressent. Dans leur vie, il y a toujours eu un moment bien précis, où ils ont su dire « Oui, me voici, je viens ». Et ils ont ouvert tout grand leur cœur à l'amour de Dieu.